Bon mercredi tout le monde, bon début de soirée. Bienvenue à Parlons-nous, nouvelle édition ce soir et bienvenue également aux éditeurs évidemment du 98.5 à Montréal, mais je pense aux gens qui sont à Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau ou encore Québec. On vous salue, très heureuse d'être avec vous, avec mon acolyte Justine Vachon. Bonsoir Justine.
Salut Valérie.
Dis-moi justement, étant donné qu'on est en soir de débat de campagne électorale, c'est le débat en français ce soir, il y en aura un autre demain. Toi, ce moment-ci de la campagne électorale, est-ce que tu dirais que tu as déjà décidé de ton choix ou tu vas attendre tout dépendant de voir ce qu'on va entendre ce soir notamment?
Oui, je pense que moi, je fais partie des Québécois, Québécoises qui attendent à la fin, à la toute fin, presque au moment d'aller voter. Moi, je suis ça jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à presque la dernière minute. Mais je pense que ce soir, c'est un des débats, l'un des plus écoutés.
Ouais.
Bon, il y a celui en anglais également, mais là, bon, évidemment, ce soir, je pense que puis il y a beaucoup de dossiers qui vont rebondir, d'après moi, dans ce débat ce soir.
Oui, certainement, mais évidemment, nous, ce soir, à l'émission, on ne vous parlera pas de campagne électorale. On va vous parler plutôt d'un sujet qui est très sérieux parce que... Oui, ben ça fait l'actualité depuis quand même quelques jours, depuis jeudi dernier, ce père de famille qui a perdu sa femme, sa fille, son beau-fils, son beau-père également dans un tragique accident à cause d'un récidiviste de l'alcool au volant. Et d'ailleurs, ce qui a marqué l'actualité aujourd'hui, on va vous en jaser maintenant, c'est qu'il y a d'autres accusations qui vont s'ajouter au dossier d'Éric Légaré. Ça, c'est l'homme qui a causé cet accident, qui a tué 4 membres d'une même famille à Québec la semaine passée. Mais là, on va falloir attendre une semaine à peu près pour avoir les nouvelles accusations. Pourquoi? Ben parce que l'avocat de la Couronne a demandé de reporter l'enquête sur remise en liberté du chauffeur de 43 ans. Il veut, lui, déposer l'ensemble de la preuve. Tout ça va se faire le 15 septembre. Évidemment, aujourd'hui, au palais de justice, ben, il y avait des proches de l'accusé qui étaient présents, des proches des victimes aussi. Et l'avocat de la Couronne, maître Pierre-Alexandre Bernard, lui, a expliqué qu'il n'avait pas encore tous les rapports d'expertise en main. Éric Légaré, on vous le rappelle, fait présentement face à 8 chefs d'accusation. Conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies, causant la mort également.
Oui, tu disais récidiviste parce qu'il avait déjà perdu son permis de conduire une première fois il y a quelques années, en 2017, après avoir reconnu avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool. La Sûreté du Québec a aussi indiqué la semaine dernière que la vitesse et l'alcool ont joué un rôle au moment où le chauffeur a embouti la voiture des victimes qui étaient immobilisées à un feu rouge. On le rappelle, les victimes, Shelley Fletcher, 44 ans, son père James, 68 ans, donc ils sont décédés sur le coup, et les enfants de la femme Jackson et Emma qui ont succombé à leurs blessures dans les jours suivants. Et témoignage tellement touchant ce matin sur nos ondes, là.
Oui, celui de Jean-Dominique Lemieux, c'est le papa dans cette histoire-là. Puis souvent, ben, on se demande comment quelqu'un qui est la victime d'un drame aussi terrible, comment cette personne-là est capable justement de pouvoir parler sur les réseaux sociaux, de parler aussi avec les médias. Mais il s'est entretenu avec Paul Arcand ce matin, puis c'est vraiment une entrevue touchante qu'on va vous faire entendre un peu plus tard dans l'émission. Je pense que si vous l'avez manqué, là, ça vaut vraiment la peine de la réécouter parce que faut savoir aussi que ces enfants qui sont décédés ont donné leurs organes, vont pouvoir sauver d'autres vies. Puis ça, c'est très important pour Jean-Dominique Lemieux. Donc, on va vous faire entendre cette entrevue-là un peu plus tard. Conseil scolaire catholique de Providence en Ontario qui a finalement suspendu sa destruction de livres jugés néfastes aux Autochtones. C'est ce qu'a rapporté Radio-Canada en fin de journée. Puis hier, on vous en parlait. Là, on parlait de 5000 œuvres qui avaient été détruites, brûlées. Mais là, finalement, il en reste 200 de ces œuvres-là qui étaient encore en évaluation. Mais évidemment, ça a fait tout un tollé, cette nouvelle-là d'hier. Donc, il y aura révision du processus de retrait d'ouvrages. Et il y a aussi le fait que la gardienne du savoir autochtone, qui, elle, avait accompagné le conseil scolaire dans le processus, bon, on a appris aujourd'hui que finalement, qu'elle n'est pas autochtone du tout, du tout. Donc, ça a accéléré la décision, finalement, du conseil scolaire catholique de Providence. Il y a donc des Tintins, des Lucky Luke et le roman du film Avatar qui font partie des livres qui restent encore à évaluer.
Non, mais quelle histoire quand même. Quel dossier quand même de Radio-Canada. Et d'ailleurs, en entrevue, Suzy Keys, qui est la fameuse, celle qu'on appelle la gardienne là, du savoir, ouais, qui avait affirmé avoir un parent autochtone, alors que c'est complètement faux, comme tu l'as dit. Et je suis certaine que ça va, cette affaire-là, se retrouver au débat des chefs de ce soir, parce que probablement que Justin Trudeau va être peut-être questionné à ce sujet-là ou amené sur cette affaire-là, parce que cette femme, rappelons-le, co-préside la Commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada depuis 2016.
Quand même. Il y a les partis qui se retrouvent, on parle des partis à Québec maintenant, qui se retrouvent en caucus à l'aube de la rentrée parlementaire. Ça s'amorce mardi prochain, 14 septembre, et ça s'est fait en présentiel, première fois en 18 mois. C'est ce qu'a dit le premier ministre, notamment François Legault, qui était avec les caquistes. Le gouvernement Legault qui a indiqué aujourd'hui que les syndicats sont conviés à un blitz de négociation. On parle des syndicats pour offrir le plus tôt possible un nouveau contrat de travail aux éducatrices en service de garde. Projet de loi qui va être déposé cet automne. On veut faciliter la création de places pour les tout-petits, mais on dit qu'évidemment, le plan ne fonctionnera pas sans main-d'œuvre et on sait qu'on a de la difficulté aussi à trouver de la main-d'œuvre qui est formée et qui veut travailler et éduquer nos tout-petits. Ces gens-là trouvent souvent qu'ils ne sont pas assez payés. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui qualifie par ailleurs d'irréaliste la proposition libérale parce que la proposition libérale a dit bon, on pourrait instaurer un droit pour chaque enfant à une place en garderie. Alors là, le ministre Lacombe a dit ben, le projet de loi qui sera déposé cet automne, ça devrait permettre d'arriver au même résultat. On va l'écouter.
On peut bien lancer ça dans les airs. Je comprends que c'est séduisant, mais la réalité, demander à n'importe quel juriste, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous dire ce que je pense franchement. Les parents se fichent pas mal de savoir comment l'article de loi va être écrit. Ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une place pour leur enfant et être capable d'aller travailler le lundi matin.
Oui, et les places, c'est une chose, hein, parce que j'ai lu qu'il y a environ 50 000 enfants qui sont actuellement en attente là, d'une place en service de garde au Québec. Mais il y a aussi, je dirais surtout, le rattrapage salarial à faire. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est consciente de ça. Elle veut accélérer le processus de négociation et on le comprend. Et le gouvernement Legault devra s'attaquer à la pénurie d'éducatrices et les garder dans le réseau. Puis pour avoir parlé à plusieurs éducatrices, c'est vraiment ce qui revient. Même durant la pandémie, on a peu parler d'elles, mais elles ont tenu, elles et ils, et c'est majoritairement des femmes, ont tenu le fort, ont gardé et ont pris soin de nos petits. Donc, vraiment, ça va être à surveiller.
Puis, il y a le Parti québécois aussi qui a lancé un ultimatum, un ultime appel, en fait, au gouvernement Legault aujourd'hui. On a demandé au gouvernement de mettre fin à la gouvernance par décret. Ça a été rendu possible, tout ça, évidemment, à cause de la pandémie, donc de l'état d'urgence sanitaire. Alors, ce qu'on a dit du côté du PQ, c'est que s'il faut apprendre à vivre avec le virus, comme le dit François Legault hier en conférence de presse, ben, faut aussi apprendre à faire fonctionner l'Assemblée nationale avec le virus. À ce sujet, on va entendre le nouveau chef parlementaire du Parti québécois. Il s'appelle Joël Arsenault.
Continuer à s'arroger des pouvoirs extraordinaires dans une période où on devrait plutôt favoriser un retour à la normale. Mais le débat politique, évidemment, sur tous les enjeux qui préoccupent les Québécois, bien entendu le système de santé, mais que ce soit le développement régional, que ce soit l'environnement, bien entendu. Il y a d'autres urgences au Québec desquelles on voudrait discuter.
C'est vrai que le gouvernement Legault ne s'est jamais vraiment prononcé hein, sur une date de sortie de l'état d'urgence le sanitaire qui donne, rappelons-le, des pouvoirs extraordinaires. Là. C'est grâce à la loi sur la santé publique et qui permettent de prendre certaines décisions sans avoir à consulter l'Assemblée nationale. On est dans le dossier de transparence. On est vraiment là-dedans actuellement au niveau du débat public, au niveau de l'adhésion des mesures sanitaires. Donc, évidemment, une sortie qui sera vraiment surveillée.
Maintenant, début d'incendie survenu sur le terrain de l'école secondaire des Chutes de Rawdon hier matin. Ça pourrait finalement avoir été provoqué par des anti-vaccins. Il y a eu des graffitis qui ont été inscrits sur les murs de l'école. Un internaute qui a pris tout ça en photo, qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qu'on peut lire? Je vais vous citer ce qu'on peut lire. En temps et lieu, seront pendus ceux qui vaccinent les jeunes de force. Évidemment, la Sûreté du Québec a décidé d'enquêter sur cette histoire d'incendie criminel et de méfaits. On n'a pas su davantage, par contre, à ce niveau-là. Puis le feu, ben, ça a éclaté vers 4h30 hier matin. Ça s'est passé dans des roulottes de chantier qui étaient tout près de l'école. Le feu qui a été rapidement maîtrisé par les premiers policiers qui sont arrivés sur place. Évidemment, les dégâts sont mineurs, mais c'est inquiétant. On s'attaque à une école.
C'est des gestes qui sont déplorables. On en voit des plus violents ailleurs dans le monde. Là, par exemple, des doses de vaccins détruites, des centres de vaccination et des hôpitaux vandalisés. On a vu ça notamment en France. Mais j'avoue que lorsque c'est ici au Québec et sur une école, près de nos jeunes, on dirait que c'est encore plus déplacé. J'ai bien hâte de voir là, justement l'enquête, le dénouement de cette enquête. Souvent, on dit la police mène une enquête. Est-ce qu'on va arriver à retrouver là où les auteurs? Évidemment, je suis curieuse de voir là, comment ça va se terminer tout ça.
La mère d'une femme coincée en Arabie Saoudite depuis 16 ans réclame un traitement équitable de la part du gouvernement fédéral. Cette histoire-là, c'est celle de Joanne Durocher. Elle dit que sa fille, Nathalie Morin, ses 4 enfants sont victimes de stigmatisation de la part des fonctionnaires. Nathalie Morin, vous avez certainement entendu parler d'elle dans les dernières années. Elle est partie en Arabie Saoudite volontairement. Elle avait seulement 17 ans. Elle était enceinte à ce moment-là. On dit que c'est une jeune femme qui a un défaut de langage, pas le profil héroïque comme les deux Michael qui sont détenus présentement en Chine. Alors, sa mère, Joanne Durocher, ce qu'elle dit finalement, c'est que les fonctionnaires des services consulaires se basent sur des préjugés et n'agissent pas beaucoup. On va écouter la maman.
J'ai retrouvé des notes dans le genre, ben c'est la mère qui veut que sa fille revienne. Je pense pas que la fille veut vraiment retourner. De toute façon, je suis pas certain que les enfants seraient plus heureux au Canada avec une mère de 21 ans non scolarisée. Ça, c'est des gens qui travaillent pour Affaires mondiales Canada qui ont mis ces notes-là.
Cette dame-là qui n'a jamais lâché, on s'en parlait hors d'onde, ouais. Là, elle se bat pour sa fille, pour ramener sa fille et ses enfants au Canada depuis plus de 15 ans. Elle se bat contre la bureaucratie fédérale. On ne peut, je trouve, là, que saluer son courage.
Oui, vraiment, c'est pas facile ce qui se passe, mais c'est le meilleur moment pour en parler en campagne électorale.
Tout à fait.
Évidemment, il est 18h41, on va s'arrêter parce qu'au retour, on veut vous présenter ce témoignage de ce papa qui a perdu sa conjointe, ses enfants à cause d'un récidiviste de l'alcool au volant. Et on va prendre d'ailleurs vos appels sur l'alcool au volant et si vous avez déjà empêché un proche de conduire en état d'ébriété, on va jaser tout ça au retour.